Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bac FM, vous écoutez Avenir Mode d'Emploi, l'émission proposée par la fabrique Emploi et Territoire. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Sabine. Bonjour Sabine.
Bonjour Sébastien.
Aujourd'hui, restez bien avec nous parce que cette émission s'adresse à toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'emploi sur notre territoire. Entreprises, demandeurs d'emploi, collectivités, établissements publics, structures d'insertion, acteurs associatifs ou tout simplement citoyens curieux. Ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Luna Travers, facilitatrice des clauses sociales. Bonjour Luna.
Bonjour.
Et Pierre Madrias, directeur adjoint de l'ESAT Fernand Poirier.
Bonjour.
Alors avec eux, nous allons parler insertion, accès à l'emploi, inclusion, de handicap au travail, mais aussi de solutions concrètes hein, pour faire se rencontrer les besoins des entreprises et les parcours des personnes. Sabine, je te laisse nous présenter ton invité.
Oui, merci Seb. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui, Luna. Bonjour. Tu es facilitatrice clause sociale à la fabrique. Et donc, quand on dit clause sociale, au premier abord, ça peut faire un peu peur. Ça sonne administratif, technique et presque réservé aux initiés. Pourtant, quand on regarde de plus près, on se rend compte que derrière ces mots, il y a du concret, du terrain et des parcours qui se remettent en mouvement. Alors, plutôt que de commencer par une grande définition, on va reprendre l'histoire depuis le début, si tu le veux bien. Et donc, Luna, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une clause sociale ?
Alors la clause sociale, c'est un dispositif, pour parler un petit peu en jargon, qui peut permettre à des donneurs d'ordre d'inclure un dispositif d'insertion vers l'emploi pour des personnes éloignées de l'emploi sur leur marché public.
Alors juste si tu dis, excuse-moi, mais donneur d'ordre, pour moi, c'est déjà...
C'est ce que j'allais te demander.
J'avais déjà envie de biper, tu vois. On avait imaginé un buzzer, on pourrait appuyer dessus à partir du moment où on se dit, là ça y est, on ne comprend plus rien. Donc, donneur d'ordre, déjà, ouais, si tu peux nous expliquer ce que là j'ai envie de faire. Bah, tu vois.
Ah, j'avais précisé que c'était du jargon. Donneur d'ordre, on parle d'acheteurs, en fait. Donc ça peut être des communes, ça peut être des communautés de communes, ça peut être aussi des bailleurs sociaux, par exemple.
D'accord, donc eux, les donneurs d'ordre, donc ils ont un marché, on part d'ici, c'est ça, quand on parle de clause sociale, il y a un marché à la base ?
C'est ça, on part de ça. En fait, pour donner un exemple un peu concret, c'est comme si une commune, donc la ville de Cis par exemple, décidait de refaire son église. Et donc elle va lancer un marché public, donc qui va être accessible en fait à toutes les entreprises qui souhaitent y répondre, pour le fait de refaire son église.
Et donc l'appel d'offres, c'est à partir peut-être d'un certain montant, c'est ça ? Parce que si on a des petits travaux à faire, il n'y a pas forcément d'appel d'offres qui est lancé, mais à partir d'un certain montant, il y a un appel d'offres et donc les entreprises peuvent répondre à cet appel d'offres, c'est ça ?
Exactement. En dessous d'un certain montant, donc c'est autour de 40 000, les entreprises peuvent fonctionner par devis, tout simplement, comme un particulier pourrait le faire s'il souhaite refaire sa salle de bain chez lui, par exemple. Mmh. Et au-dessus, donc il y a l'obligation de passer par une procédure plus formalisée, donc qui s'appelle un appel d'offres, pour que toutes les entreprises puissent répondre en fait, de manière concurrentielle, quoi, tout simplement.
Ok, et donc les entreprises, donc elles répondent à ce marché, on essaye de faire un peu dans l'ordre pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc ces entreprises, elles, admettons, elles répondent au marché, elles peuvent répondre au marché. Comment ça se passe à partir de ce moment-là ? Il y a un certain nombre d'heures, c'est ça, qui est
alors,
alloué ?
Avant ça, donc l'entreprise, en fait, avant que le donneur d'ordre lance son marché,
oui.
Il va nous consulter. Okay. C'est-à-dire qu'il va nous envoyer tous les éléments pour refaire son église, par exemple. Donc, les travaux qui vont être faits, le planning, etc. Et nous, on va y intégrer une clause sociale d'insertion. Donc, une clause qui peut prendre différentes formes. On peut être sur des heures d'insertion, ce qui va être le plus connu. On peut être aussi sur des actions d'insertion. On peut être aussi sur de la sous-traitance, par exemple. Donc, il y a plein de différentes formes qui vont être incluses dans l'appel d'offres qui sera lancé par le donneur d'ordre de l'acheteur. Et une fois que cet appel d'offres est lancé, les entreprises peuvent en effet se positionner pour répondre. Donc une entreprise d'électricité va se positionner sur la partie électricité de l'opération en ayant connaissance du coup des tenants des aboutissements et notamment de la clause d'insertion.
D'accord.
Si je comprends bien, du coup, là il y a un acheteur, une collectivité, un hôpital public qui dit je veux faire des travaux. Elle dit pour ces travaux j'ai besoin de lancer un appel à des entreprises. N'importe quelle entreprise peut répondre, c'est ça ?
Tout à fait.
Ok, ok. Et du coup, là, c'est là que vous intervenez.
On va intervenir à plusieurs étapes. On va intervenir avant que le projet soit finalisé pour justement dire à la mairie en question ou à l'acheteur en tout cas en question qu'est-ce qu'il est possible pour lui de mettre en place en termes d'insertion. On va intervenir quand les entreprises répondent pour les informer de la clause d'insertion à laquelle ils se sont engagés et les aider à y répondre. Et on va intervenir aussi sur tout le long du marché pour accompagner du coup les entreprises en question et mettre en lien avec les structures d'insertion du territoire.
Donc vous facilitez vraiment, parce que quand tu dis « on », du coup c'est le pôle close, donc c'est toi et Alexandre qui êtes les deux facilitateurs et facilitatrices des clauses sociales d'insertion à la Fabrique Emploi et Territoire. Donc vous accompagnez vraiment du début à la fin. Et ça représente quoi comme coût quand on fait appel à vous, par exemple ?
Alors ça représente un coût qui va de toute manière être assez léger puisqu'on se base sur le montant du marché global. On est sur une toute petite proportion et on va se baser sur ce qu'on va préconiser. Donc il y a des conventions qui sont mises en place avec les acheteurs qui vont spécifier en fait qu'on les accompagne vraiment de A à Z. C'est une sorte de solution clé en main en fait. Les acheteurs, quand ils nous appellent, ils savent que toute la partie insertion et toute la partie du coup clause d'insertion et d'exécution va être gérée en fait, de A à Z auprès de l'acheteur, auprès des entreprises et auprès des participants du coup à ces clauses de A à Z.
Et ces clauses sociales, elles sont obligatoires aujourd'hui ?
Alors à date, elles ne sont pas obligatoires, donc c'est quelque chose qui est vraiment conseillé, entre guillemets. À partir du août de cette année, on va avoir des obligations qui vont être mises en place. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain montant, il sera obligatoire de mettre en place des clauses, et si les clauses d'insertion ne sont pas mises en place, il sera obligatoire de justifier pourquoi on ne met pas de clauses en place. Donc en fait, il y a une réflexion qui va être imposée maintenant à l'ensemble des acheteurs sur la mise en place de clauses d'insertion.
D'accord.
Quand tu dis que c'est conseillé... Tu pourrais le défendre, ça ? Pourquoi c'est conseillé, en fait ? Pourquoi on peut dire il est conseillé de mettre en place des clauses sociales ?
En fait, c'est conseillé parce que c'est un parcours. En fait, c'est de mettre en place une clause sociale, ça permet d'intégrer, du coup, le parcours d'insertion vers l'emploi de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui est peut-être un petit peu éloigné de l'emploi pour plein de raisons différentes, parce qu'on est sur des critères qui sont très, très larges. On peut être sur des jeunes... de moins de 26 ans qui sortent d'études, qui ne trouvent pas d'emploi, ils sont éligibles à ce parcours-là. On peut être sur des travailleurs handicapés, on peut être sur des demandeurs d'emploi de longue durée, on peut être sur des seniors donc de plus de 50 ans et qui, pour une certaine raison, ont eu une pause dans leur carrière et qui, du coup, sont éligibles. On est vraiment sur un panel très, très large de personnes. Donc, intégrer une clause d'insertion, déjà de 1, en passant par nous, en fait, c'est totalement transparent pour le donneur d'ordre. Et en plus, ça permet à quelqu'un de remettre un pied vers l'emploi, des fois quand il en est un petit peu éloigné. Et en plus, il y a toujours de belles histoires qui en naissent, quoi. Les personnes qui sont intégrées,
on se dit que les clauses sociales, finalement, c'est assez loin du terrain. Moi, j'entends clause sociale au début, enfin là, maintenant non, mais au début, j'entendais clause sociale, je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, Et en fait, ça concerne tout le monde en vérité, parce qu'on disait les collectivités. Là, tu nous parles d'un demandeur d'emploi, d'une personne en situation de handicap, tu nous parles d'un jeune, tu nous parles de. En fait, les clauses sociales, ça peut concerner tout le monde. Ça concerne un chef d'entreprise aussi, parce que c'est une entreprise qui répond. Enfin, c'est vraiment en lien vraiment avec le terrain, quoi.
On est sur un panel super large. En effet, ça va des communes ou des communautés de communes au chef d'entreprise d'une toute petite entreprise ou bien d'une énorme entreprise, à des participants de tout style, en fait, comme on disait, parce qu'il y a énormément de critères.
Et du coup, en parlant des personnes du coup, qui sont éligibles à ces clauses-là, est-ce que vous avez des partenaires privilégiés, notamment pour l'insertion ?
Tout à fait. On travaille avec donc le réseau des structures en fait de l'insertion. Donc en fait, on va avoir dedans donc des associations intermédiaires, on va avoir des entreprises de travail temporaire d'insertion, on va avoir des ESAT, des entreprises adaptées. On est vraiment sur un panel très très large en fait de personnes qui accompagnent du public. On est aussi avec les acteurs de l'emploi, donc du réseau pour l'emploi, donc France Travail, Mission Locale, PLI. On est vraiment en fait avec tous les acteurs locaux de l'emploi et de l'insertion du territoire.
Donc vous, en tant que facilitateur, vous êtes un peu au carrefour et vous mettez en lien en fonction de la demande qui est faite à la base, c'est ça ?
C'est ça, exactement. En fait, on met en lien du coup ce réseau avec les recherches des entreprises pour qu'elles puissent mener à bien leur clause.
Eh ben merci Luna d'avoir éclairé nos lanternes par rapport aux clauses sociales d'insertion. Avant d'enchaîner avec la suite de notre émission, on vous propose un petit interlude musical avec un classique de System of the Down. Et où que vous soyez, n'oubliez pas de monter le volume et à tout de suite sur l'antenne de Wack FM. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life.
shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk mine. It's a day that I'm glad I survived.
Eh bien, nous voilà de retour pour la deuxième partie de notre émission Avenir Mode d'Emploi, l'émission de la Fabrique Emploi et Territoire sur BAC FM. Et nous sommes toujours en compagnie de Sabine et de nos deux invités, Luna Travers et Pierre Madrias. Place maintenant à notre rubrique « Les assos prennent le micro », la rubrique consacrée au dispositif DLA 58. Alors le DLA, pour le dire simplement, c'est un dispositif qui accompagne les associations employeuses et certaines structures de l'économie sociale et solidaire lorsqu'elles ont besoin de prendre du recul sur leur fonctionnement, leur organisation, leur modèle économique ou encore leur projet.
Et information importante, cet accompagnement est complètement gratuit pour les structures accompagnées.
Absolument, l'idée c'est vraiment de permettre aux associations, aux structures de l'ESS de se poser, de réfléchir et d'être aidées sans que la question du coût soit un frein. Et justement, après avoir parlé d'accompagnement, de clauses sociales et d'emploi avec Luna en première partie d'émission, on va voir si tout le monde a bien suivi.
C'est maintenant le moment du tant attendu quiz du DLA. Alors, est-ce que tout le monde est prêt ?
Alors, carrément.
La question numéro 1 du quiz. Donc, dans un marché public, une clause sociale, c'est quoi principalement ? Réponse A. Une obligation pour l'entreprise de prouver qu'elle respecte bien le droit du travail et les règles de sécurité. Réponse B. Une disposition qui permet de réserver une partie des heures de travail des personnes en parcours d'insertion. Réponse C. Une formule magique administrative. Tu la lis trois fois devant un cahier des charges, une réunion apparaît. Et la dernière possibilité, une phrase planquée dans le marché public pour vérifier si quelqu'un lit vraiment les pages 87 avant de les signer. Alors, à votre avis ?
Alors, moi j'adore la formule magique, hein, parce que je suis fan, mais...
On n'est pas loin de la vérité, en plus. Hein.
Ouais, ça faciliterait bien des choses.
Ah ouais, c'est clair. Alors, est-ce qu'on peut dire du coup que c'est une disposition qui permet de réserver une partie des heures de travail à des personnes en parcours d'insertion ? Est-ce que ça résume assez bien ce qu'on s'est dit, Luna, juste avant ?
Carrément.
Eh bien, c'est ça, tout à fait.
Question de qui peut être concerné par une clause sociale ? Des personnes qui souhaitent simplement changer de métier ou découvrir un nouveau secteur ? Des personnes éloignées de l'emploi, accompagnées dans un parcours d'insertion professionnelle ? Des gens qui ont envoyé 43 CV ? Reçu deux réponses automatiques et commencé à tutoyer France Travail par désespoir, ou toute personne ayant survécu à un entretien collectif, deux ateliers CV, une réunion PowerPoint et un café tiède en salle polyvalente.
Alors, qu'est-ce qu'on dit en studio là ? Qui peut être concerné par une clause sociale ?
Alors, moi j'ai une vraie question est-ce que les personnes qui peuvent changer de métier ou découvrir un nouveau secteur, est-ce que c'est des personnes qui peuvent être concernées par une clause sociale ou pas, du coup ?
En fait, on étudie le parcours des personnes en entier. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, à l'instant T, elle a envie de se réorienter, mais peut-être qu'avant ça, il y a une situation, il y a quelque chose qui fait qu'elle pourrait en effet être éligible. On ne se contente pas des critères que je vous ai donné en exemple tout à l'heure, on étudie vraiment le parcours dans son intégralité. Donc quelqu'un qui est en reconversion peut en effet être éligible, mais ce n'est pas un critère de base.
Ok.
Alors la question 3, le rôle d'une facilitatrice des clauses sociales, c'est plutôt contrôler les entreprises et sanctionner celles qui ne respectent pas leurs engagements, ou faire le lien entre les acheteurs, les entreprises, les structures de l'insertion et les publics concernés pour que la clause fonctionne correctement, ou traduire le langage marché public en français humain, ce qui est déjà une compétence rare.
Ah, j'adore.
C'est pas faux.
C'est pas faux.
Bah, j'espère en l'occurrence que c'est plutôt la deuxième, quoi. Après, bon, ouais, on ne sait jamais, mais peut-être qu'il y a des entreprises qui nous écoutent et qui ne sont pas d'accord, mais je pense qu'on est plutôt sur la deuxième.
Mais c'est ce qu'on disait, donc faire du lien entre les différents acteurs pour que la clause fonctionne concrètement.
Pour une association d'insertion, une clause sociale peut permettre de prouver qu'un marché public peut parfois produire autre chose que du papier, des signatures et des acronymes, de garantir automatiquement un emploi durable à toutes les personnes positionnées sur un marché, de proposer à des personnes accompagnées une expérience de travail concrète, encadrée et valorisable, de faire entrer l'insertion dans un chantier sans avoir besoin de sacrifier une agrafeuse au dieu des procédures. Bon, on l'a de toute façon.
On l'a,
le reste est complètement absurde, donc ça on l'a. Ok, et la dernière ?
La dernière. Quelle phrase résume le mieux l'esprit des clauses sociales ? Puisqu'il faut refaire une route, autant qu'elle mène aussi vers l'emploi.
Ah, c'est tellement beau.
Qu'est-ce que c'est beau, c'est poétique. Quand une collectivité achète une prestation, elle peut aussi soutenir l'emploi local et l'insertion. Mmh. Ou, c'est l'idée qu'un marché public peut avoir un cœur, même s'il garde une police Times New Roman en taille 9. Bon, même si la première est jolie aussi, on peut éventuellement dire que c'est quand même la phrase « Quand une collectivité achète une prestation, elle peut aussi soutenir l'emploi local et l'insertion ». On est d'accord avec ça.
Oui, on est d'accord avec ça. Mais la première est très belle, ceci dit.
Oui, c'est vrai.
Très
ouais,
poétique.
Ouais, c'est tout nous, la poésie.
Hein ? C'est tout nous.
Ok, bon, merci pour ce petit quiz. Alors, on va passer à l'interview de Pierre. Tu es directeur adjoint, c'est ça, de l'ESAT Fernand Poirier.
Oui, exactement.
Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire c'est quoi ton rôle et depuis combien de temps tu travailles dans ce secteur voilà.
Donc je dirige, voilà, je suis le directeur adjoint de l'ESAT Fernand Poirier à Nevers, géré par la Sauvegarde 58.
D'accord.
Une grosse association qui œuvre dans le social dans la Nièvre. Mon parcours, il est un petit peu atypique. Alors ça fait 5 ans que je suis directeur adjoint de l'ESAT.
Ok.
Pour autant, je suis issu... Je ne suis pas du tout issu du milieu médico-social, puisque j'ai un bac plus 5 en génie chimique. J'ai œuvré dans des centres d'appel jusqu'à faire la direction de production. Et moi aussi, à un moment, j'ai souhaité me reconvertir.
Ouais, on a tous le droit de se reconvertir. C'est même plutôt ça qui fait nos richesses aussi. Hein.
Donc voilà, et donc mon travail aujourd'hui, c'est de gérer un ESAT.
D'accord.
Donc gérer à la fois un accompagnement social auprès de personnes en situation de handicap, tout en assurant de la production, puisque en les accompagnant dans le travail, on s'engage auprès d'entreprises comme sous-traitants d'une façon générale. Hein, mm-hmm. Je résume, mais et donc voilà, c'est à la fois un accompagnement social et un suivi de production.
D'accord.
En trouvant le bon mix entre les deux.
D'accord. Et c'est une opportunité en fait, un peu c'était un peu le hasard d'une carrière à un moment donné d'un croisement de chemin qui fait que ça t'amène vers ce poste-là, puisque tu étais sur un tout autre domaine jusqu'alors.
Oui, alors peut-être que ma carrière est un hasard, puisque j'ai fait des études donc, en physico-chimie. J'ai pourtant jamais travaillé en physique, peut-être un petit peu en chimie. Je suis arrivé dans la région pour travailler à Prémery, dans les anciennes usines Langlotte, comme responsable QSE.
Ouais, ok.
Voilà, qui m'ont amené chaque fois avec des opportunités.
Alors QSE, c'est
qualité sécurité, environnement.
Ouais.
Et voilà, j'ai à chaque fois rebondi sur des opportunités de travail qui m'ont amené jusqu'à
l'ESAT.
Jusqu'à l'ESAT, qui était vraiment un choix. Voilà, sur un moment de réflexion sur ma carrière, au moment d'un bilan de compétences. Voilà, vraiment une volonté de changer et voilà, de me retourner vers une activité professionnelle plus humaine que la direction de production.
Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est un ESAT ? Alors déjà, ESAT, E-S-A-T, déjà, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que ça veut dire, ESAT ?
Oui, alors, Je vais certainement utiliser plein d'acronymes. Coupez-moi, Aide.
Ouais, on va buzzer, il n'y a pas de problème.
C'est le secteur qui veut ça. Donc, ESAT, c'est un établissement de service et d'accompagnement par le travail.
OK.
Donc, nous accompagnons des personnes en situation de handicap. Grosso modo, ESAT, c'est du handicap, des troubles psychiques et troubles mentaux d'une façon générale.
OK. Enfin,
je vais être très large résumé.
OK.
Donc des personnes qui sont orientées par la maison départementale des personnes en situation de handicap, MDPH, je l'ai fait dans le bon sens, et qui sont accueillies au sein d'ateliers. Alors il y a l'ESAT Fernand Poirier, mais il y a 7 ESAT gérés par 3 associations dans la Nièvre, donc qui accueillent en tout à peu près près de 500 travailleurs handicapés.
Ok, ok. Tu parles de lieu de travail, c'est aussi un peu un lieu d'accompagnement, ou c'est l'ESAT, ou c'est un peu les deux à la fois?
C'est les deux à la fois, c'est accompagner, c'est-à-dire organiser le travail pour qu'il soit accessible à des personnes vulnérables, mais tout en assurant une vraie production. Vraie production, voilà, on n'est pas dans une activité occupationnelle.
D'accord.
Aujourd'hui, nous sommes, mais l'ESAT Fernand Poirier, comme les autres ESAT, sous-traitants d'entreprises locales, voire nationales.
D'accord.
On propose, voilà, des
prestations,
des prestations dans divers domaines.
Ok, ok. Et du coup, pour chaque travailleur, il y a une espèce de projet personnalisé un peu, ou c'est ça? C'est-à-dire que il y a de la production, j'entends bien, mais...
C'est un accompagnement personnalisé, donc effectivement, ils ont tous un projet personnel individualisé. C'est vraiment, on accompagne leur projet professionnel qui peut être très varié. Certains souhaitent être insérés dans le milieu dit ordinaire.
Ouais.
L'ESAT étant certainement un milieu extraordinaire.
Ouais, certainement. avec un directeur adjoint comme ça.
Exactement. D'autres vont peut-être rester toute leur carrière professionnelle à l'ESAT.
Ouais,
voilà, ça peut être un passage comme une vie professionnelle, et on va adapter pour chacun leur projet individualisé.
Mais l'idée, c'est vraiment ça, du coup. L'idée, c'est vraiment de permettre à des personnes en situation de handicap d'aller vers l'objectif un peu final, c'est d'aller vers l'emploi ordinaire, enfin le milieu ordinaire.
Alors oui, effectivement, l'État, d'une façon générale, souhaite que ce soit ainsi.
Ouais.
Hein, c'est vraiment... Dans les faits, on est quand même face à des individus qui ont une volonté, enfin en tout cas des désirs d'intégrer ou pas. C'est vrai qu'à l'ESAT, on propose pas seulement du travail, on leur propose un accompagnement psychologique, on emploie des assistantes sociales, des moniteurs ou monitrices éducatrices.
C'est aussi un cadre un peu contenant, sécurisant aussi.
Exactement.
Et alors, on parlait tout à l'heure des différents profils, du coup, des personnes accompagnées, du coup, des compétences aussi. Hein, du coup, quelles sont les compétences qui sont les compétences professionnelles, j'entends, qui sont développées au sein de l'ESAT en termes de secteur d'activité, je dirais?
Alors, d'une façon générale, on développe toutes les compétences, enfin, on participe, on essaie d'apporter toutes les compétences qui sont nécessaires dans le travail.
D'accord. En termes de savoir-être.
Savoir-être, savoir-faire. La première, c'est être présent, être à l'heure.
Oui, d'accord.
Après, on va les amener sur des compétences techniques.
Et sur quel secteur d'activité, par exemple?
Plein de secteurs d'activité. À Fernand Poirier, on a une blanchisserie industrielle, une menuiserie industrielle. Alors, je mets industrielle parce que oui, on est sous-traitant, donc on est capable de travailler en gros volume. Un atelier, une métallerie, donc mécano-soudure. On fait des entretien des espaces verts. Et un atelier de sous-traitance industrielle où on va faire du conditionnement, entre autres. On retrouve ça sur les autres ESAT de la Nièvre. Hein. Certains font de la restauration. C'est vraiment tout le panel d'activités qu'on peut retrouver à l'extérieur.
D'accord. Et vous travaillez avec, j'imagine, d'autres structures, d'autres entreprises qui font appel à vous, ou des particuliers, ou comment ça se passe? Alors, et avec qui vous travaillez, en fait?
Ça va dépendre des secteurs. Les espaces verts, particuliers et professionnels font appel à nous. Après, pour les autres secteurs, ça dépend. On travaille avec des privés, des particuliers, c'est la même chose, pardon, des entreprises, des collectivités. On sait répondre aux appels d'offres.
D'accord.
Nous sommes un des sous-traitants des entreprises de la Nièvre.
Et donc tu regardes Luna en off, je le dis pour nos auditeurs qui ne voient pas les gestes, mais du coup tu regardes Luna en disant on répond aussi à des appels d'offres, c'est-à-dire qu'un ESAT peut répondre à un appel d'offres d'un marché public par exemple ?
Oui, absolument. Absolument, on répond chaque année à plusieurs appels d'offres dans
plusieurs secteurs différents.
Alors il y a certains appels d'offres qui sont réservés pour le travail adapté. Donc là, c'est facile, on se positionne dessus. Il y a d'autres appels d'offres qui sont travaillés avec la Fabrique de l'Emploi et des Territoires pour voir ce qu'il est possible de réserver ou voir ce qu'il est possible de... En tout cas,
pour
orienter les entreprises qui pourraient se positionner, voir ce qu'elles pourraient nous remettre, nous partager.
Comment vous voyez l'image de l'ESAT Fernand Poirier dans le regard des habitants globalement? Est-ce que en gros comment est-ce qu'on voit un ESAT quand on est selon vous un habitant un peu loin du milieu du handicap?
C'est difficile de répondre à cette question parce que je l'ai été loin du secteur. Et je pense que quand on est loin du secteur, on ne le connaît pas.
Ouais.
On ne connaît pas ce secteur. En fait, on connaît rarement les secteurs dans lesquels on ne travaille pas. On a une idée. On a tous un avis. Donc là, pourquoi c'est difficile de répondre? Parce que voilà, je l'ai été, je ne le connaissais pas. J'y suis maintenant. Ça me paraît évident. Je connais tous les autres ESAT. Je sais presque les présenter, les entreprises adaptées, les instituts médico-éducatifs, enfin tout ce qui gravite autour du handicap. Que je ne connaissais absolument pas avant. Donc je pense que nous sommes, d'une façon générale, méconnus. Les familles qui ont des enfants, des parents en situation de handicap vont le connaître. On pourra leur parler, et tous les autres, je pense qu'on en est tous bien loin.
Ce qui est quand même assez fou, parce que quand tu en parles, on dit finalement tout le monde peut faire appel à l'ESAT, les particuliers, les entreprises. Voilà, et malgré tout, il y a cette méconnaissance. Alors, ça vient de quoi en fait? Ça vient de la com?
Ça vient certainement de la com. Alors, c'est vrai que comme on a une activité de production qui pourrait entrer en concurrence avec d'autres entreprises, il y a des règles qui font que nous sommes limités en termes de termes de publicité. Donc, effectivement, vous verrez jamais de grands panneaux. Venez à l'ESAT, achetez votre jouet pour enfants, votre hôtel à insectes.
Alors que malgré tout, on achète certainement des hôtels à insectes qui sont produits par l'ESAT et qui sont vendus par des grandes enseignes.
Exactement, et il y en a à Nevers, des grandes enseignes.
Ouais.
Qui...
oui, je le sais bien.
Je ne les citerai pas parce que je ne pourrais à Nevers citer qu'elles. Mais,
Ok. Sabine, tu voulais...
Bah peut-être, est-ce que tu aurais, je ne sais pas pourquoi je t'ai vouvoyé là tout de suite, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux entreprises qui hésitent justement encore à travailler avec l'ESAT?
Qu'il ne faut pas hésiter, en fait, les ESAT peuvent faire énormément de choses. Et je pense qu'avant de consulter à l'extérieur, il suffirait juste de questionner un ESAT, mais de la plus petite bricole, si je puis dire, dont elles auraient besoin... jusqu'à des choses beaucoup plus importantes avec de la conception. Les ESAT Fernand Poirier, on a un bureau d'études, donc on peut travailler, concevoir, aider les entreprises. Donc, c'est consulter les ESAT. Il y a les ESAT Fernand Poirier, il y en a 7 autres, les ESAT Lavernay, les ESAT de Lorme, de Clamcy, de Decize, Cône-sur-Loire et Montsauge. Enfin voilà, nous sommes 7. Et en plus, voilà, sur des gros volumes, on peut travailler ensemble. Nous sommes des associations différentes, mais nous ne sommes pas... concurrents, nous travaillons ensemble.
Donc, une entreprise qui voudrait développer un secteur, qui souhaiterait réfléchir à un nouveau projet, comment ça se passe? Elle t'appelle, toi ou la sauvegarde ou je,
oui, voilà. Alors nos coordonnées sont, sont sur le net.
Ouais, je ne vais pas donner ton numéro perso à l'antenne.
S'il te plaît.
Non,
mais oui.
Et puis à partir de là, vous, vous faites un peu une étude ou une proposition, et puis c'est ça.
On se rencontrera, on travaillera ensemble leur projet, et les ESAT sont en train de, voilà, de, d'évoluer aussi, et on sait qu'on peut être un partenaire le temps de monter en charge, le temps de développer le projet, le temps de construire un bâtiment, mais peut-être que l'activité peut démarrer, elle peut démarrer avec notre soutien.
Ok.
Et si on les soutient, eux nous soutiennent aussi et soutiennent les travailleurs avec lesquels on travaille.
Ok. Merci Pierre.
Merci à toi. Merci à vous.
Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission Avenir Mode d'Emploi. Donc, merci à tous les deux, Luna et Pierre, d'avoir accepté l'invitation. Avant de rendre l'antenne, on a envie de faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Alors, une fois n'est pas coutume, nous voulions terminer avec une petite dédicace. Une dédicace à quelqu'un qui, dans l'ombre, suit nos aventures, nous accompagne, nous soutient et parfois même enrichit nos idées avec ce regard discret et toujours précieux. On ne l'entend jamais, ou presque, pendant nos émissions, mais sans elle, l'ambiance en studio ne serait pas tout à fait la même. Alors, pour cette dernière émission de l'année scolaire, on voulait lui adresser un grand merci. Big up à celle qui nous accompagne en studio, Laetitia. Et en attendant de vous retrouver en septembre, on vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui en ont. Profitez bien, sortez les pelles, les seaux, les bouées canards, mangez des glaces, pensez à la crème solaire et surtout, prenez soin de vous. À bientôt Sabine, bonnes vacances à toutes et à tous, bel été sur l'antenne de Bac FM.